Pour une septième fois de sa carrière, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne et sur trois roues. Aïe aïe, tout un exploit. On en parle avec Philippe Lagu qui est avec nous. Salut Philippe.
Salut Jérémy.
Spectaculaire. Spectaculaire. Lewis Hamilton, trois roues, une crevaison, continue, arrive à la fin, termine premier.
Moi, je trouve plus de mots pour le décrire, sérieusement, parce que, écoute, il y a 35 ans, puis il fait juste s'améliorer. C'est comme si on voyait pas la fin. Jusqu'où il va aller, jusqu'à quel point il va être bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant parce que, tu sais, oui, Schumacher a réécrit le livre des records de la Formule 1 en son temps, mais à un moment donné, on a senti une baisse de performance de son côté. Puis là, ben, c'est Fernando Alonso, finalement, qui a mis fin à son règne avec deux championnats coup sur coup en 2005 et en 2006. Mais, tu sais, il ne faut pas oublier que Schumacher, il était encore là. Là. Mm-hmm. Alors, un moment donné, autrement dit, il a atteint son pic, puis il s'est mis à redescendre. Hamilton, on pense toujours qu'il l'a atteint. Ben non, il l'a pas encore atteint. Il est pas parfait. Il est plus que parfait, comme j'ai écrit dans mon blog sur le site du 98.5 Sport. Je dis plus que parfait parce que non seulement il fait absolument aucune erreur puis il est en parfait contrôle, mais on dirait qu'à chaque course, il rajoute un petit quelque chose, un petit coup d'éclat, juste pour dire je suis sur une autre planète.
Est-ce que tu t'es
Il y a moi puis il y a les autres.
Est-ce que tu t'es questionné, Philippe, à savoir, serait-il en mesure de compléter la course? Parce que là, on voyait oui. À un moment donné, là il y avait les flamèches en dessous du bolide, la roue avant gauche, c'était terminé. On avait l'impression que c'était pour se décomposer. Il trouve le moyen de garder ça quand même assez droit puis être en mesure de compléter.
Puis on n'a pas idée jusqu'à quel point c'est un exploit. Tu sais, je veux dire, il est arrivé la même chose à Bottas juste avant, puis à Carlos Sainz. Ben, ils sont rentrés au puits, puis ils ont perdu leurs points. Lewis, lui, il a dit non, moi j'ai 45 secondes d'avance, là. Faut que j'essaye de garder ça en piste par n'importe quel moyen. Puis il a failli l'échapper, on l'a vu, là. Puis le pneu était complètement déjanté, là. Mm-hmm. C'était incroyable, là. Puis écoute.
Puis t'as Verstappen qui s'en vient, là.
Comme une fusée. En arrière, parce que qu'est-ce que tu penses qu'ils ont dit chez Red Bull, hein? Hey, il roule sur trois roues, dépêche, 45 secondes d'avance, puis il a fini ça avec.
Mais ça nous dit.
Verstappen était à 5 secondes, là.
Mais ça nous en dit énormément quand tu dis qu'il avait 45 secondes d'avance sur son plus proche concurrent. Tu sais, je veux dire, ça nous prouve que ce gars-là était d'une classe à part.
Ouais, il faut quand même nuancer qu'il n'y avait pas 45 secondes d'avance sur Bottas avant que Bottas.
Oui, t'as raison.
Avant que
la Mercedes est en avant, par contre.
Ah oui, largement. Puis de toute façon, Lewis, juste par rapport à Bottas, est déjà sur une autre planète, puis on est à voiture égale. Là. Puis Bottas, c'est peut-être pas un champion d'exception, mais c'est pas un pied de céleri non plus. Là. C'est un gagnant de Grand Prix. Là.
Donc, alors, Hamilton, c'est très 1, impressionnant. Verstappen 2, Charles Leclerc 3.
Très impressionnant, c'est aussi Charles Leclerc.
Charles 3, Leclerc, là. Oui, t'as raison. Puis surtout que Vettel, avec Claude Ferrari, a terminé 10.
Honteux parce que.
Explique-moi, là, je comprends pas, c'est quand même deux Ferrari.
Puis il a fini 10 parce qu'il y a deux voitures qui ont été obligées d'aller au puits dans les derniers tours à cause des pneus qui se déjantaient. Là. Si Carlos Sainz et Valtteri Bottas ne vont pas au puits, Vettel, il finit 12e. Là. C'est pathétique. Pathétique.
Là, c'est-tu le pilote, sa voiture?
Une combinaison des deux.
Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, là, on voyait par moments, il perdait le contrôle, c'est complètement instable. Là. Sa Ferrari, il semblait pas en mesure de la contrôler.
Ben, c'est plate à dire, mais Leclerc, lui, avec la même monture, il finit 3e. Là, évidemment, chez Ferrari, on a toujours des théories de complot. Juste entendre le mot Ferrari, puis les complotistes se déchaînent. Ah, c'est parce que là, Vettel sera plus là l'année prochaine, fait que là, il donne une moins bonne auto, puis c'est ci, puis c'est ça. Je ne vois absolument pas quel est l'avantage de Ferrari pour Ferrari de faire ça. D'une part, puis d'autre part, je veux dire, Vettel n'a pas déversé son fiel sur l'équipe. Là, ils n'ont aucune raison d'être remontés, disons, contre lui. Il n'y aurait aucune logique à faire ça, absolument aucune. Puis un autre aussi qui a été invisible en fin de semaine, puis lui, il a vraiment pas d'excuses, là. C'est Lance Stroll.
Hey, j'allais te parler de Lance Stroll, lui qui avait été le plus rapide lors de la deuxième séance des célibes. On s'en parle vendredi, on est heureux, on se dit « Mon Dieu Seigneur, quelle compétition! » On arrive un autre qui a semblé avoir beaucoup de difficultés à contrôler son bolide pendant la course.
Ouais, mais Il en demeure pas moins qu'il a fini premier de la deuxième séance d'essai libre. Puis, en qualification, il s'est quand même qualifié sixième. Là, il était sur la troisième ligne. C'est loin d'être déshonorable. Pouf, il rate son départ.
Termine neuf.
Il termine neuf parce qu'encore là, comme Vettel, il y en a deux qui ont été obligés de rentrer dans un puits dans les deux derniers tours, parce que si ça n'avait pas été de ça, il finissait même pas d'un point. Ne pas finir dans les points quand tu as une des trois meilleures voitures du plateau en ce moment, c'est inexcusable.
Mais ça me semblait...
Inexcusable.
Ça me semblait un week-end un peu difficile pour Racing Point. As-tu aimé Hülkenberg, finalement?
Hey, toute une course.
Il était bon, hein? Ah, je l'ai regardé pendant...
Il était parfait, il a fait aucune erreur.
Zéro, hein?
Bon, là, pour ceux et celles qui nous écoutent puis ils savent pas de quoi on parle, c'est que Hülkenberg a pas pris le départ de la course.
Ça, c'est incompréhensible.
Ben, en fait, Racing Point, en fin de semaine, ils ont l'air d'une vraie gang de pee-wee. Et parce que ne pas être capable de faire partir l'auto juste avant le Grand Prix, ouf, bon, OK, c'est peut-être un problème du power unit que Mercedes leur a vendu. Peut-être. Mais quand on connaît Lawrence Stroll, le père, juste de réputation, quelqu'un qui est turbo exigeant avec les gens autour de lui, oh, il y en a qui ont dû se faire chauffer les oreilles après ça. Il ne devait pas être content, M. Stroll.
Fait que là, c'est mauvais week-end pour Racing Point. Et c'est quand? C'est mardi ou mercredi que Renault devrait...
Mercredi.
Mercredi avec Racing Point, parce qu'on dit qu'on a copié le modèle de Mercedes de l'an passé.
Exact.
Donc, on va avoir des nouvelles de ça mercredi.
On va avoir des nouvelles de ça mercredi. Alain Prost, qui travaille pour Renault, et Zach Brown... le patron de McLaren, eux autres, ce sont les deux seuls qui disent « c'est pas bon pour la Formule 1 de faire ça ». C'est sûr, parce que McLaren et Renault, ils n'ont pas d'équipe B. Alors, eux autres sont vraiment obligés de tout produire. Mais demande à Alfa Romeo ou à Haas s'ils sont contre ça, eux autres. Je pense pas, parce qu'ils aimeraient bien ça, eux autres aussi, avoir une copie de la Ferrari. Peut-être pas cette année, là, mais les années d'avant, oui, assurément. Puis c'est ça, c'est peut-être ça l'avenir de la Formule 1. En tout cas, en attendant les nouvelles règles en 2022
aussi. Quand on va réduire les budgets, ça va être un peu différent.
Ben oui, il y a ça aussi. Tu sais, rendu là, est-ce que ça vaut la peine de faire un si gros plat alors qu'il nous reste une saison quasiment et demie là, avec le modèle actuel de la Formule 1? Parce qu'en 2022, on va être dans un autre univers. Mais c'est sûr que, bon, Renault a une petite crotte sur le cœur aussi contre Racing Point, on le sait. Racing Point a fait une réclamation contre eux autres l'année passée sur leur système de répartition de freinage au dernier Grand Prix. Ils ont gagné, ils ont eu gain de cause et Renault s'est fait enlever des points. Chaque point que tu te fais enlever en Formule 1, ça se calcule en millions. Fait que tu comprends bien que chez Renault, on fait un peu de ressentiment aussi.
Ben, ce qui est normal dans cette compétition assez féroce. En terminant, Philippe, je veux savoir, est-ce qu'on peut dire que Pirelli a connu un mauvais week-end ou ce sont les écuries qui ont trop poussé la note avec les pneus parce qu'il y a tellement eu de crevaisons, on a tellement eu de difficultés avec les pneus. Comment tu vois la situation?
Ben, c'est clairement un problème de pneus. C'est clairement du côté de Pirelli. Et je peux te dire que chez Pirelli, on va probablement travailler nuit et jour d'ici... le week-end prochain, parce qu'on ne voudrait pas revivre non plus ce qui s'est déjà passé à Indianapolis au début des années 2000, là, quand il y avait 6 voitures qui avaient pris le départ du Grand Prix parce que les pneus Michelin éclataient dans le virage relevé. Là, ça avait été un œil au beurre noir pour la Formule 1, puis ça a probablement fait reculer aussi de 20 ans l'intérêt des Américains pour la Formule 1. Déjà qu'on c'était difficile, puis... Mais là, tu sais, on a recommencé à conquérir l'intérêt des Américains pour la Formule 1 grâce à Netflix.
Avec la série.
Avec la série Drive to Survive, qui est une télé-réalité sur la Formule 1. Et c'est excellent. C'est meilleur qu'écouter un Grand Prix. D'ailleurs, en fin de semaine, il faut le dire, c'était vachement plate, là.
Ben, au moins, on voyait des crevaisons.
Oui, mais les crevaisons, tout est arrivé dans les trois derniers tours.
C'est ça, encore une fois.
Avant ça, c'était très, très, très ennuyant.
Ben, juste à dire que, puis je sais peut-être que tu l'écoutes pas, mais j'ai écouté encore une fois le Grand Prix RDS, et sur RDS2, on peut suivre à l'intérieur du bolide de Lance Stroll pendant toute la course. On a fait Latifi également. Et le son de la Williams avec le son de la Racing Point, mon Dieu Seigneur, il y en a un qui c'est une tondeuse à pelouse, avec l'autre c'est un bolide, ça sonne pas pareil.
Et pourtant c'est le même moteur.
Mais la Williams, elle sonne pas du tout pareil comparativement à la Racing Point, c'est fou. C'est fou, le son est complètement différent.
Deux moteurs Mercedes. Mais là, la grande question, il y a peut-être deux Land, il y a peut-être deux types de moteurs Mercedes, comme il y a peut-être deux Land Stroll. Et j'ai hâte de voir en fin de semaine prochaine, parce qu'on retourne dimanche sur le même circuit pour un autre...
70e anniversaire.
70e anniversaire de la F1. Et on retourne sur le même circuit pour un deuxième week-end d'affilée. Là, j'ai hâte de voir quel Lance Stroll on va voir. Parce que là c'est comme Dr. Jekyll, Mr. Hyde. C'est comme s'il y avait un frère jumeau.
Ben, sais-tu, vendredi, on va attendre un peu avant de s'enthousiasmer trop.
Ouais, on a eu notre leçon.
Ouais, hein? Je pense que oui, on va attendre un peu. Hey, Philippe!
On le voyait sur le podium et la ballonne, s'est-tu dessoufflée?
Pas mal dessoufflée. Philippe, un peu, hein? Toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.